Europe 1.
Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, Jérémy Ferrari est un cas. Eh oui, son humour féroce et jubilatoire fait qu'il n'a pas besoin de promo pour remplir les plus grandes salles de France et de Navarre. Donc, pour clôturer en apothéose une tournée de plus de 2 ans à guichet fermé, eh bien Jérémy Ferrari n'avait pas d'autre choix pour les dernières représentations d'Anesthésie Générale que de donner rendez-vous au public à l'Accor Arena, c'est-à-dire Bercy, les 9 et 10 mars. Mais comme Bercy est complet, bien sûr avec lui, eh bien la dernière représentation d'Anesthésie Générale sera transmise en direct le 10 mars à 17h dans plus de 300 cinémas en France, en Belgique et en Suisse. Voilà, Jérémy Ferrari, sulfate, tous azimuts, notre système de santé, l'hôpital, la sécu, les lavabos, l'homéopathie, j'ai d'ailleurs appris 1000 choses à ce sujet, la gestion du Covid en France et j'en passe, c'est terrifiant de drôlerie et de vérité. Bonjour Jérémy.
Bonjour. Je crois que vous avez dit les lavabos au lieu des labos. Je parle pas des lavabos. C'est pas grave. Vous pouvez le laisser. Je veux juste préciser que les gens ne soient pas déçus. Je ne parle pas des lavabos. Je suis sur les labos.
C'était pour être sûr que vous m'écoutiez bien.
Je vous écoute.
Ah, il a tout repéré. Génial. On va pas la retoucher celle-là. Bon, Jérémy Ferrari. Tout ce que vous nous livrez sur scène, à part les lavabos, depuis 15 ans, avec un humour toujours meurtrier et vérifié. Vérifiable et sourcé, c'est ça?
Ah, vous avez repris les mots exacts de mon spectacle.
Bah oui. Tiens.
Oui, tout est toujours. Alors après, il peut toujours y avoir un jour une coquille, hein. On n'est pas à l'abri. Puis parfois, il y a des vérités qui muent aussi, hein. Vous savez, il y a des choses qui sont vraies maintenant, qui le sont plus dans 5 ans, dans 10 ans, hein. Je suis pas un expert. Je reprends des sources et j'essaye de vérifier ces sources et de les croiser au maximum. Et normalement, je dis pas trop de bêtises. Voilà. Jusqu'à présent, a priori, il n'y en a pas eu.
Alors, à l'époque de votre spectacle, Alléluia Bordel, vous décortiquiez la Bible, la Torah, le Coran, et vous étiez souvent attendu en sortie de scène et ça bousculait un peu. Votre seul en scène vend 2 pièces à Beyrouth, parlait lui du terrorisme, et vous avez dû prendre un agent de sécurité pour vous protéger au quotidien. Avec Anesthésie Générale, bah vous allez très très loin quand par exemple vous ciblez les laboratoires et pas les lavabos.
J'aurais moins de problème avec les lavabos.
Voilà. Mais ils vous ont jamais menacé d'un procès, les laboratoires Servier?
Non, pour le moment non, mais après ils ont peut-être pas vu le spectacle. Quand il va passer à la télévision, l'exploitation n'est pas finie. Vous savez, il y a vraiment plusieurs types d'exploitation avec un spectacle, parce que vous avez effectivement d'abord la tournée, etc. Puis après, vous avez la deuxième partie quand vous donnez à tout le monde. Parce que quand vous êtes en tournée, c'est essentiellement des gens qui vous aiment, qui viennent vous voir. Quand vous l'exposez après en télévision, sur le web, etc. Quand le spectacle va avoir sa deuxième vie, c'est-à-dire qu'il va partir à la télévision, alors on peut encore, les problèmes ne sont pas terminés. On peut encore avoir des problèmes après.
Bon. On rit, bien évidemment, mais vos dossiers, comme vous nous l'avez dit, sont bossés et précis comme carrément des bilans comptables. Par exemple, alors l'homéopathie. On comprend, et vous nous prouvez que, c'est pas compliqué, c'est la forme de charlatanisme la plus aboutie au monde.
Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots d'Edzard Ernst, qui est un spécialiste de la médecine alternative, qui est connu dans le monde entier. Et alors, d'ailleurs, c'est très rigolo parce que ce mec, je l'ai trouvé dans mes recherches, quoi. J'ai trouvé ce mec qui, effectivement, explique que lui-même était homéopathe et que donc c'est devenu un spécialiste de la médecine alternative parce que il y a un des arguments qui consiste à dire que c'est une médecine alternative et que donc elle n'est pas comprise et que c'est pour ça qu'elle est critiquée. Donc je suis allé me renseigner auprès des spécialistes de la médecine alternative. Mm-hmm. Donc Edzard Ernst, c'est un des premiers spécialistes de la médecine alternative au monde, c'est un des plus respectés au monde, pour ne pas dire le plus respecté au monde, qui était lui-même homéopathe au début de sa carrière et qui donc dit c'est l'homéopathie, c'est la forme de charlatanisme la plus aboutie au monde. Et alors ce qui est très rigolo avec ce monsieur, c'est que donc moi je pensais même pas que ce monsieur parlait français. Et alors un jour, je reçois un mail d'une jeune femme qui m'explique qu'elle est la nièce, alors je sais plus si c'est la nièce ou la cousine, je sais plus, d'Edzard Ernst, et qu'elle s'est retrouvée à mon spectacle. Elle était très très flattée que je cite, donc je sais plus si c'est son oncle ou son beau-père ou je sais plus qui exactement. Et du coup, Edzard Ernst était censé venir me voir à Liège, et puis alors il a eu un truc professionnel qui l'a retenu, donc au dernier moment il est pas venu, mais il a connaissance de mon spectacle, il a vu le sketch, et donc cette personne m'a dit, ça l'a beaucoup fait. Il est très content que vous ayez fait
voilà,
ce sketch.
Et il approuve, voilà. Parce que votre démonstration du charlatanisme de l'homéopathie, en prenant, pour exemple, pareil, justement, la fabrication du produit, tiens, le plus vendu au monde dans cette médecine parallèle, c'est-à-dire l'oscillococcinum, cette démo, elle est prodigieuse. L'oxylococcinum, c'est un produit qui est dilué à 200 K. Expliquez-nous, Jérémy Ferrari.
Bah 200 K, c'est-à-dire que... Bon, je vais pas vous refaire le sketch là à l'antenne.
Hein. Non, mais...
L'idée, en fait, c'est de se rendre compte que si vous prenez une goutte de foie de canard, donc parce que c'est la base active de l'oxylococcinum, c'est-à-dire que vous prenez une goutte de foie de canard putréfiée pendant 30 jours, parce que c'est du foie de canard pourri pendant 30 jours qui est censé nous aider. Et vous prenez une goutte de foie de canard, vous la mettez dans un litre et demi d'eau, vous secouez, vous videz la bouteille complètement. La même bouteille, vous la re-remplissez d'un litre et demi d'eau pure, donc d'eau sans foie de canard, vous la secouez, vous la revidez une deuxième fois, et là on en est à 2 cas. Donc ça c'est donc pour l'oxylococcinum, c'est comme s'ils avaient fait ça 200 fois. Donc ça c'est schématique parce qu'évidemment c'est fait par des machines, mais si pour les matheux, c'est l'équivalent d'un atome de foie de canard dans 5 fois l'univers visible.
Vous pouvez nous répéter cette phrase, je la trouve magnifique.
C'est l'équivalent d'un atome de foie de canard dans 5 fois l'univers visible.
Et c'est la démonstration parfaite du concept du placebo.
Du placebo bien sûr, mais après encore une fois, moi au départ honnêtement ce sketch je le trouve très léger hein. Moi l'homéopathie j'en prenais un peu de temps en temps. Bon, quand j'ai fini le sketch, j'ai arrêté d'en prendre, mais pour moi, ça faisait partie des sketchs très légers du spectacle.
Hein. Sauf que j'ai appris justement que, là vous parlez de foie de canard, mais ils utilisent des glandes anales de putois, des crachats de coqlucheux, des sécrétions purulentes blénorragiques. Eh bien tout ça, ça rapporte quand même 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an au laboratoire Boiron.
Ben oui, parce que c'est quelque chose qui est très 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 populaire. Alors là, ils essayent de s'implanter maintenant dans d'autres pays, ils sont beaucoup en Inde et tout, parce que justement en Europe, ça baisse un peu. Donc là, ils essayent d'aller vers d'autres populations, ils essayent de s'implanter en Afrique, en Inde, etc.
Plus facile à manipuler, c'est ça?
Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, c'est là-bas qu'ils essayent de s'implanter. Mais ça relève de la croyance.
Alors, on l'a bien compris, le thème d'anesthésie générale, c'est la santé, Jérémy Ferrari. Et il y a 30 ans, le système hospitalier français était numéro 1 au monde. Aujourd'hui, il est à la 12e place. J'ai d'ailleurs appris dans votre spectacle qu'en 2019, un mec avait attendu 6 jours aux urgences. Et pour évoquer donc l'état de l'hôpital public en France et sa gestion, vous osez un sketch qui est absolument hallucinant, mais carrément à la hauteur de tous les faits divers qu'on entend sur Kimberley, dans le coma depuis 8 ans, et qui, à l'hôpital, va tomber enceinte. Voilà, tout ça pour nous dire que l'hôpital public est devenu le lieu de tous les dangers.
Le lieu de tous les dangers. Après, il y a d'autres endroits au monde qui sont plus dangereux que l'hôpital. Hein,
mais
de toute façon, la presse nous l'apprend tous les jours. Là, en ce moment, ça n'arrête pas les drames des gens qui ont été oubliés dans un couloir ou dans une chambre, qui meurent parce qu'ils ont pas reçu je sais pas quoi. Enfin, là, on a eu plusieurs exemples de quelqu'un qui a pas reçu les antibiotiques, qui est mort à cause de ça. Enfin bon, c'est pratiquement toutes les semaines qu'on voit des choses. Et encore, on n'apprend pas tout parce que la presse arrive à nous raconter une petite partie de ce qui se passe. Mais je pense que si vous allez lire des témoignages dans les hôpitaux directement, je pense que vous en aurez encore d'autres. Donc c'est un système public qui est abandonné par le gouvernement et qui laisse tranquillement mourir. Et je suis convaincu que c'est pour nous pousser à aller vers le service privé pour un jour justifier de privatiser tout.
Alors, on atteint des sommets avec, par exemple, le passage sur la gestion du Covid. Vous dites, la Chine construit des hôpitaux de 1000 lits en 10 jours, pendant que nous, on regarde des tutos sur Internet pour fabriquer nos masques avec nos slips. Tout ça, c'est vrai.
Oui, tout est vrai.
tout est vrai. Voilà, bon, moi, je vous garde jalousement et on se retrouve tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Dès le premier jour de la mise en ligne des billets pour voir au cinéma, le 10 mars à partir de 17h, l'ultime représentation en live à la Core Arena à Bercy de son spectacle Anesthésie Générale, et bien Jérémy Ferrari, qui n'a jamais eu besoin de promo pour remplir les salles, en avait déjà vendu 50 000, ce qui en capacité d'accueil correspond à plus de 2 fois Bercy. C'est carrément du délire. Et l'année prochaine, et bien Jérémy Ferrari s'offrira la tournée du trio avec Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplain. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, Jérémy Ferrari, vous dites, dans l'humour, quel que soit le sujet, ça peut être par exemple les handicapés, je ne ressens ni gêne ni compassion, rien n'est sacré. Comment peut-on arriver à une telle liberté?
Alors, c'est pas que quand je dis que je ne ressens pas de compassion, c'est pas le mot compassion dans le sens être empathique avec le sujet.
Parce oui, que, l'empathie, vous l'avez.
Oui, parce que si je n'avais pas d'empathie, je traiterais pas ces sujets. Par définition, quand on traite du racisme, de l'homophobie, de la misogynie, etc., etc., de toute forme d'exclusion, c'est parce que ce sont des sujets qui nous énervent et qu'on a envie à notre manière de lutter. Donc, il se trouve que moi, je fais de l'humour. Donc, ma manière de lutter, c'est de caricaturer. Donc, parfois de dénoncer premier degré, puis parfois de jouer moi-même un raciste ou un homophobe, un misogyne pour ridiculiser le truc. Donc voilà, après, je pense que je ne ressens pas de gêne quand je fais ce que je fais parce que je suis droit dans mes baskets. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le racisme ou l'homophobie ou la misogynie ou ce genre de comportement, en fait, de formation, c'est quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Et c'est quelque chose qui, quand il devient très caricatural, me fait rire. Parce que je trouve ça absurde, donc ça m'a toujours fait rire, en fait. Et je pense que donc, je ne ressens pas de gêne en le faisant parce que je sais pourquoi je le fais.
C'est votre mère qui a été votre, en fait, premier professeur d'humour noir ?
Oui, alors disons que ma mère est quelqu'un de très drôle et qu'elle aimait beaucoup me faire rire et qu'on était effectivement tous dans l'humour dans la famille et qu'on aimait dédramatiser les choses autour de nous à travers ce type d'humour.
Alors, vous avez grandi dans les Ardennes, Jérémy Ferrari, à Charleville-Mézières, la ville de Rimbaud, mais c'est quand même rude, hein, les Ardennes.
Bah, c'est rude. Oui, alors évidemment pour ceux qui bossaient dans les mines, c'est rude. Pour nous, bon, ça va. À partir du moment où on a un manteau, ça va.
Après, à partir du moment où on a un manteau, a-t-il dit.
Non, mais disons que c'est surtout que c'est des régions effectivement qui ont beaucoup souffert de la fermeture des mines. C'est des régions minières, donc qui subissent énormément de chômage parce que quand les mines ont fermé, on n'a pas vraiment donné d'autres solutions à tous ces gens. Donc ça a donné beaucoup de familles qui étaient en difficulté. Donc mais en même temps, c'est aussi des régions où les gens sont tellement gentils, sont tellement bienveillants. Et c'est vrai que c'est des régions où on est habitué à vivre avec pas grand-chose, ou à devoir se débrouiller. Donc, bon, je sais pas si c'est une région plus rude qu'une autre, quoi. Je pense juste qu'elle a certains aspects positifs et certains aspects plus durs.
Alors, il paraît que vos crises d'angoisse ont commencé à l'âge de 8 ans, mais vous ne vous sentiez pas adapté à quoi ?
Ah bah 8 ans, je pose pas la question de cette manière-là. À 8 ans, c'est juste que j'ai beaucoup d'angoisse et une espèce de mélancolie qui correspond pas à mon âge. Donc je sais que ma mère essayait souvent de comprendre pourquoi j'étais triste, je disais je suis triste et tout, elle comprenait pas. On comprend pas pourquoi un enfant de 8 ans est triste. Donc c'est quelque chose à l'époque j'intellectualisais pas, c'est pas que je me sentais pas à l'aise ou pas adapté, c'est j'avais ça en moi quoi, sans vraiment comprendre pourquoi.
Jérémy Ferrari, à 16 ans, vous décidez de ne pas aller jusqu'au bac. Vous écrivez votre premier one-man show et vous allez le jouer dans la région, jusque, paraît-il, dans les maisons de retraite. On veut dire quoi à 16 ans quand on monte seul en scène ?
Je parle déjà de ces sujets-là. En fait, alors à 16 ans, c'est un spectacle que je fais où j'ai des reprises et des sketchs à moi. Donc je fais des sketchs de Bigard, de Robin, de Palmade, de Jolivet, de voilà. Et puis quelques sketchs à moi où je crois que je parlais pas de trucs très intéressants, j'avais parlé des relations hommes-femmes, des trucs un peu comme ça, bizarre.
bizarre.
Non mais bizarre à 16 ans en fait parce que j'écrivais des sketchs sur des relations hommes-femmes alors que
j'étais au tout début de mes relations amoureuses. Ouais,
donc mais bon, j'étais un peu là-dessus. Et après, à 17-18 ans, quand je commence vraiment à écrire mes one man, je suis déjà là-dessus. Hein. Je suis sur le racisme, je suis sur l'homophobie, je suis sur. Alors j'ai des sketchs plus légers comme la belle famille. Je parle de la mort aussi. J'ai des sujets sur la mort, sur l'enterrement, sur les pompes funèbres. Donc j'ai déjà un univers comme ça assez noir et déjà toujours dans la provoque. Et je joue déjà des personnages comme ça. Je joue déjà des personnages méchants, des personnages parce que déjà à cet âge-là, il y a une espèce de fascination, d'incompréhension en fait envers ces gens qui ont cette forme d'esprit à détester l'autre pour sa couleur, sa sexualité, sa religion. C'est encore quelque chose qui me, je pense que c'est toujours un truc que je comprendrai pas en fait. Donc comme je ne comprends pas, bah ça me fait rire.
Alors effectivement, elle est très étonnante votre précocité parce que il faudra une dérogation de vos parents pour vous inscrire à Paris au cours Florent. Vous étiez encore mineur, mais avec une détermination de fou, car à 17 ans, vous trouverez des scènes à Paris pour jouer votre premier spectacle. Moi, méchant, 17 ans seulement. Comment vous regardez les gens du métier ?
Bah, je les regarde pas, je les vois pas. Hein. À 17 ans, je croise personne.
Oui, mais le directeur de salle.
À 17 ans, les directeurs de salle, c'est les mêmes qu'à 25, c'est des loueurs de salle.
Donc, en réalité, que vous ayez 25 ou 17, ça les surprend pas plus que ça ?
J'ai pas eu l'impression que ça les surprenait plus que ça. C'est surtout qu'il fallait payer la salle. En fait, moi, c'est surtout moi qui ai été surpris. Parce qu'en fait, vous arrivez à Paris et vous pensez que vous devez quelque part gagner votre place dans un café théâtre et vous vous apercevez qu'effectivement ils regardent quand même ce que vous faites, hein. Ils me regardaient quand même. Je veux dire, le premier directeur du théâtre de la Providence est un mec adorable, qui a été très gentil, qui m'a quand même laissé ma chance, et je ne lui en veux pas. Et dans ce que je dis, je lui en veux pas. Mais si j'avais pas pu payer la salle, il m'aurait pas donné la salle, même si j'étais bon. Donc, je pense.
Donc, pour payer la salle, il paraît que vous avez fait plein de petits boulots.
Oui, alors
dans une vie parallèle, c'est ça.
Pour vivre et pour payer la salle, mais effectivement, ça va commencer comme ça. Il faut que je loue un petit théâtre. Alors, mes parents m'ont aidé un peu sur le début, et puis après, mes parents ont perdu leur commerce, etc. Donc, j'ai dû me débrouiller un peu tout seul, un peu plus tout seul. Mais oui, bien sûr, j'ai travaillé tout de suite. En fait, je suis arrivé mineur. Donc à 17 ans évidemment je travaille pas parce que personne n'embauche un mec de 17 ans.
Mais c'est pour ça que vous avez menti sur votre CV pour non, vous faire non, par exemple embaucher chez Orange, non c'est pour une autre raison.
C'était pas sur l'âge, c'était sur les diplômes que j'ai menti.
Ah d'accord.
Parce que parce que j'avais pas de diplôme. Donc évidemment au début quand on n'a pas de diplôme, on fait un peu tous les boulots tous les boulots qu'on trouve quoi. Donc c'était des ménageurs,
et pourtant
voituriers.
Vous en êtes très très bien sorti chez Orange. Chez Orange que vous avez gagné, vous avez remporté un prix
chez Orange parce que chez Orange en fait on était au front, alors on est aussi essentiellement des commerciaux, donc quand vous avez un problème avec votre téléphone vous appelez votre service client et les gens que vous avez de l'autre côté c'est des vendeurs, donc ils ont des petits degrés de compétence sur quelques trucs un peu simples mais ils sont surtout là pour vous vendre des choses. Et chez Orange il y avait un système qui est très bien ceci dit hein, qui s'appelle la pérennité, c'est-à-dire que vous n'êtes payer que si le client garde ce que vous lui avez vendu pendant 3 mois, parce que sinon ça évitait les excès.
Et vos clients gardaient ce que vous leur vendiez au-delà de 3 mois.
J'avais un taux de pérennité exceptionnel et un taux de vente exceptionnel, donc j'ai été premier vendeur de France, j'ai gagné le premier voyage que j'ai fait à l'étranger, c'était grâce à Orange qui m'a payé un voyage, c'était en Grèce je crois, et donc j'ai pu partir dans un palace en Grèce grâce à Orange. Donc merci Orange.
Bon, mais ça coûte cher quand même de louer des salles pour pouvoir jouer. Alors, il paraît que bon, vous aviez quand même beaucoup de dettes malgré tous ces jobs et vous étiez à deux doigts de tout lâcher pour partir au Mexique, Jérémy Ferrari, quand vous entendez parler d'une nouvelle émission lancée par Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Bon, si je résume, vous êtes né sur ce plateau, c'est ça ?
Oui, né non, parce que pour le coup, ça faisait déjà 10 ans que j'étais là, hein, parce que on demande qu'en rire, ça commence, j'ai 25 ans. Donc ça fait quand même déjà pratiquement 10 ans que je galère, quoi. Et que ça marche pas du tout. Donc oui, on va dire que moi, je suis déjà là, parce que le spectacle, par exemple, mon premier succès qui est Alléluia Bordel, et je l'ai déjà quand je fais On demande qu'à en rire, sauf que j'ai personne.
Vous l'avez déjà écrit ?
Il est déjà écrit. Donc,
et vous commencez à le jouer ou pas tout à fait ?
Non, ça fait déjà 2 ans que je joue le spectacle.
Incroyable.
Et j'ai personne dans les salles. Personne vient voir, il n'y a pas de bouche à oreille, puisque de toute façon, il n'y a personne qui vient voir le spectacle. Et puis,
donc c'est la télé qui va remplir les salles.
C'est la télé qui va remplir les salles, et je pense qu'après, c'est la qualité du spectacle qui a fait que ça
bien
s'est
sûr,
monté en puissance.
Mais, bien sûr.
Évidemment, c'est la télé qui a rempli mes salles. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que le premier phénomène a été étrange, parce que je jouais dans une toute petite salle hein, de 30 places, et alors tout d'un coup, donc, le théâtre reçoit des milliers d'appels pour venir me voir. Donc, très étonnant, donc on joue. Et puis à un moment donné, il y a un creux. C'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, ils viennent plus me voir. Et donc là, je comprends pas, parce que je me disais, j'avais quand même confiance en mon spectacle. Je me disais, il est bien ce spectacle, si j'arrive à avoir du public dans la salle, je vais les convaincre. Et puis ça se passe bien en salle, les gens sont morts de rire, j'ai standing ovation et tout. Et tout d'un coup, plus personne vient me voir, je ne sais pas pourquoi, ça a duré 2 mois. Et donc là, je suis effondré parce que je me dis, le spectacle a déçu, j'ai cassé le bouche à oreille et c'est ma carrière est finie en fait. J'aurais essayé, ça fait des années que je dis, si on me laisse passer en télévision, ça va marcher. Là, je passe en télévision, les gens sont venus au spectacle et ils viennent plus.
Et l'explication, c'est quoi ?
J'en ai aucune. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas.
Et mais c'est surréaliste.
C'est reparti.
Ouais.
Avec la même intensité que quand ça a commencé, fort. Donc c'est-à-dire des milliers d'appels tout d'un coup. Et après, ça s'est plus jamais arrêté.
Parfait. Bon, Jérémy Ferrari, vous aviez 31 ans quand on vous a diagnostiqué HPI, c'est-à-dire surdoué, TDAH, c'est-à-dire trouble de l'attention avec, en plus, hyperactivité, tout ça donnant un obsessionnel compulsif avec, à l'époque, un alcoolisme suicidaire. Bon, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Vous allez nous en parler, comme vous en parlez d'ailleurs dans le spectacle Anesthésie Générale. On fait une pause très courte, on se retrouve avec Jérémy Ferrari sur Europe 1. Bien sûr, on va retrouver Jérémy Ferrari, mais juste avant, on écoute le nouveau MC Solar. Il danse.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts.
Ça reste dans le diner à coup des pommes motel.
Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball.
Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté.
Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse
guitariste. Ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performer, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzela. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Quelle que soit la tendance, pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance, la transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent, pour leur indépendance, qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent, sur champ de résistance, la danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
C'est le nouveau MC Solar.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bon, Jérémy Ferrari, je continue de dérouler le fil de votre histoire. Nous sommes en 2016. Votre tournée à travers toute la France est triomphale, on ne peut pas dire autrement. Mais vous voilà installé, les jambes dans le vide, vraiment au bord d'une corniche, assis sur le rebord de la fenêtre de votre chambre d'hôtel, 20 mètres au-dessus du sol. Vos crises d'angoisse ne cessent de grandir et le suicide vous apparaît comme une solution. Ça veut dire que le succès, en fait, pour le terrible angoissé que vous êtes, le succès n'a jamais rien calmé.
Non, voilà, c'est bien de le dire comme ça, parce que il faut pas... Il y a des raccourcis que les gens aiment bien faire en disant ah ben c'est le succès qui l'a rendu triste ou c'est le succès qui l'a rendu dépressif, etc. Je crois pas du tout que ça se passe comme ça. Je pense que alors après il doit y avoir des gens fragiles qui ne supportent pas le succès, que le succès fait vriller. Hein, on en connaît hein, dans le métier, les gens qui mettent des plombs, qui se prennent pour Dieu ou qui tombent dans les excès. Mais en tout cas pour moi c'est pas ça. Pour moi c'est pas ça. C'est juste que je suis convaincu que le succès va calmer et le succès ne calme pas. Donc comme le succès ne calme pas mes angoisses et les problèmes que j'ai dans ma tête et mes problèmes d'addiction, etc., ben je ne vois plus d'issue. Quand vous avez 25 ans, vous avez vu 17 psys qui vous disent que vous n'avez rien et que...
Ah, parce qu'ils vous disaient que vous n'aviez rien.
Moi, j'ai été diagnostiqué de mes troubles à 31 ans quand j'ai fait ma cure de désintoxication. Avant ça, j'avais vu plein de gens qui me disaient que j'avais rien. Donc, ou en tout cas, rien qui justifiait une prise en charge ou un traitement ou quoi que ce soit. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que ben, quand vous... Du coup, en fait, vous voyez des spécialistes qui vous disent « Ben non, c'est dans ta tête, tu n'as rien. » Alors, d'accord. Vous avez en même temps tout ce que vous vouliez avoir dans la vie. Moi la seule chose que je voulais, c'est d'avoir des salles pleines. Je les ai.
Voilà.
Donc là, vous ne voyez plus d'issue, quoi.
Sauf qu'il y a un moment dans votre spectacle, Anesthésie Générale, et d'ailleurs, ce moment, il est terrible, parce qu'on sent que le public s'arrête de respirer, où vous dites, en parlant de cette tentative de suicide, vous dites « L'idée de sauter m'a procuré de la joie. »
Oui, je suis convaincu que, encore une fois, hein, je peux pas parler au nom de toutes les gens qui ont fait des tentatives de suicide, mais je pense que le déclic de d'y aller, de le faire, de passer à l'acte, je pense que ça passe par un moment où le cerveau déconnecte son instinct de survie, ce qui est l'inverse de ce que doit faire le cerveau humain.
Bien sûr.
Le cerveau humain, il cherche à survivre en permanence. Et à ce moment-là, je ressens de la joie à l'idée de sauter. Je pense que les gens qui passent à l'acte, malheureusement, ont un moment un peu qu'on peut considérer comme un moment de folie, où cet instinct de survie se déconnecte et où une autre sensation prend le pas sur la peur de mourir. Quand quelqu'un saute par la fenêtre ou s'immole par le feu ou je sais pas quoi, si on est dans une lucidité complète, ne serait-ce que la douleur ou la peur de mourir doit vous arrêter. Donc il y a quelque chose dans le cerveau qui se passe à ce moment-là qui fait que vous êtes prêt à passer à l'acte. Je pense qu'il y a un monde entre le moment où on y pense et le moment où on le fait.
Voilà.
Des moments où on y pense, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ces moments, quoi, des pensées noires. Je pense qu'on en a tous à peu près eu dans notre vie.
Mais si votre ami et associé d'ailleurs, Michaël Dion, n'était pas entré dans la chambre à ce moment-là, Vous pensez que vous auriez eu la tentation de vous laisser glisser ou pas? Parce que lui, avec une tranquillité totalement fabriquée, hein, il a réussi à vous ramener, vous faire quitter donc cette corniche 20 mètres au-dessus du vide et vous ramener dans la chambre.
Je pense que sa présence m'a permis de revenir à la réalité surtout. C'est-à-dire que ce moment, il est un peu étrange pour nous deux parce que il y a même, je me rappelle que quand j'ai commencé à écrire le spectacle, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu crois que je peux parler d'une tentative de suicide? Il a éclaté rire en me disant, mais il faut, qu'est-ce qu'il te faut pour dire ça? J'ai dit, oui, mais j'ai pas sauté. Il me dit, mais si t'es, quand on est au-dessus d'une fenêtre du vide, mec, il n'y a pas de tentative. Hein, voilà. T'étais à 20 mètres de haut. Si tu sautes, il n'y a pas de tentative. Tu t'es suicidé. Il me dit, quand tu fermes les yeux et que tu pousses sur tes mains et que je suis obligé de te parler pour te réveiller, bon, voilà. Donc, il y a ce moment où je vois le vide et que j'éprouve de la joie. Je pense que j'ai le cerveau qui vrille complètement. Je me rappelle que je regardais des arbres, j'étais au-dessus des arbres. C'était grands arbres. Et je me rappelle que je lui disais, enfin, je me rappelle, alors c'est lui qui me l'a rappelé, parce que je m'en souvenais même plus. Donc, il m'a expliqué que je lui disais, que je décrivais les arbres et que je lui disais que je voyais des excroissances de la mort. Donc, à travers les arbres, je voyais la mort qui sortait du sol. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui est plus du tout lucide. Et tout à coup, j'éprouve de la joie à l'idée de rejoindre ça, quoi. Donc, je pense que je suis passé, vraiment très proche du truc, et je pense que lui m'a permis de garder un point avec la lucidité.
C'est ça.
Et tout d'un coup, je suis revenu un peu à la réalité, et j'ai même eu peur de la hauteur tout d'un coup. C'est ça qui est très bizarre. C'est
alors que j'étais assis. Soudain, la sensation de vertige. Ouais. Et ça, on l'a quand justement, on veut pas glisser.
Ben oui. Donc, alors j'étais assis là depuis, je pense, un quart d'heure ou 20 minutes.
Incroyable.
Donc, c'est très étonnant. Le cerveau humain est très étonnant. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je lui dis, il faut m'enfermer, il faut me soigner. Parce que je me rends compte que je ne veux pas mourir. Voilà. C'est ça qui est très étonnant quand quelqu'un vous parle d'une tentative. Enfin, là, je sais que j'ai totalement conscience que dans la même phrase, je vous dis, je voulais mourir, je voulais pas mourir, mais parce que je suis sincère, je dissocie mon envie de l'homme lucide que je suis aujourd'hui avec le cerveau embrumé et malade que j'avais à l'époque. Et voilà, ce sont deux sensations différentes.
Alors, le 16 juillet 2016, Jérémy Ferrari, vous entrez donc en cure de désintoxication en Suisse. Et c'est là, avant de vous soigner, que les médecins vous diagnostiquent HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel, donc surdoué. Je voudrais savoir comment on supporte les autres quand on est surdoué. Et sincèrement, est-ce qu'il est possible d'être heureux, tout simplement, quand on est surdoué?
Je me suis jamais posé cette question. Honnêtement, je vous dis la vérité, hein, le truc de surdoué et tout, ça n'a eu qu'un seul intérêt pour moi, c'était de comprendre comment mon cerveau fonctionnait. J'ai jamais vu ça comme un truc qui me rendait différent ou je sais quoi. J'ai jamais vu ça comme ça, en fait. Déjà, parce que ça serait très réducteur, en fait, de cataloguer les gens en fonction d'une particularité psychique, psychiatrique, ou peu importe comment on veut appeler ça.
Bien sûr, mais quand c'est factuel, est-ce que c'est facile de se connecter aux autres?
Ça ne change rien à ma vie.
Se connecter aux autres.
Mais j'apprends ça à 31 ans. Donc, si vous voulez... Et puis, en fait, ce qui est intéressant dans le côté haut potentiel, c'est que pourquoi moi ça m'intéresse et pourquoi je le raconte sur scène, c'est pas pour dire aux gens je suis surdoué, c'est pour leur dire il y a un tableau psychiatrique différent quand vous avez un trouble de l'attention avec hyperactivité, voilà, que vous êtes surdoué. Voilà. Et donc c'est la seule chose qui m'intéresse, moi.
Oui, parce que ça rend donc obsessionnel compulsif.
C'est pas que ça rend obsessionnel compulsif ou idéatif, c'est que ça peut créer d'autres problèmes et que on a estimé que ça devait être le combo. C'est surtout ce qui est intéressant de comprendre, et ça je l'ai appris aussi en allant étudier des études en Suisse, en Angleterre, etc. C'est que quand vous êtes haut potentiel et que vous avez un trouble de l'attention avec hyperactivité, il y a certains aspects du haut potentiel qui vont augmenter ou annihiler certains aspects du trouble de l'attention avec hyperactivité, et inversement, il y a certains aspects du TDAH qui va annihiler ou augmenter certains aspects du haut potentiel. Pourquoi j'ai voulu comprendre? Parce que moi, ils me disent, vous avez un trouble de l'attention avec hyperactivité. Sauf que si je coche les cases d'un mec qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité, je n'ai pas toutes les cases. Et quand on me dit, vous êtes surdoué, si je fais un test des cases du surdoué, je n'ai pas toutes les cases du surdoué. Donc j'essaye de comprendre. Et c'est en comprenant qu'en fait, quand vous avez ces deux particularités, qu'elles se répondent en fait entre elles, et elles se mélangent, et elles créent une inertie intrinsèque à votre cerveau. Et donc, c'est uniquement pour ça que ça m'intéressait. Parce que, qu'est-ce que ça change à ma vie de savoir à 31 ans que je suis au potentiel? De toute façon, j'ai déjà arrêté les études, j'ai arrêté à 16 ans.
Non, mais vous comprenez que donc, ça crée un tempérament singulier.
Je crois que tout crée un tempérament singulier. Je pense que votre éducation, la manière dont vous avez vécu, les films que vous avez vus, les gens à qui vous avez parlé, vos expériences amoureuses, vos expériences amicales, vos expériences professionnelles, je pense que c'est la somme de tout ce que vous vivez qui vous rend particulier. Sinon, tous les hauts potentiels seraient pareils. Moi, je peux parler avec des gens qui sont soi-disant au potentiel que je trouve extrêmement bêtes, et puis des gens qui ne sont pas au potentiel que je trouve extrêmement brillants. Donc pour moi, tout ça n'a pas vraiment d'importance. C'est surtout une façon de se comprendre.
Vous êtes nombreux dans votre tête, Jérémy Ferrari. Lequel êtes-vous le plus souvent?
Je suis vraiment la somme de tout ça. C'est ça qui m'a permis aussi d'aller mieux. Quand vous prenez conscience de qui vous êtes. Et moi, j'ai étudié ces maladies pour les comprendre, pour arriver en fait à étudier mes pensées, ma façon de fonctionner, pour changer et pour les maîtriser. Et uniquement pour ça. Et quand vous comprenez qui vous êtes et que vous avez fait la, mais ça m'a pris des années, c'est pas en sortant de cure que ça a été mieux tout de suite. Ça allait un peu mieux parce que déjà je buvais plus, mais après l'alcool me manquait évidemment, comme tout dépendant, hein. Au début c'est dur. Mais bon, au fur et à mesure du temps, ça va de mieux en mieux. Et, mais au début ça n'allait pas forcément mieux. Les obsessions, je les avais toujours. J'avais toujours des hauts, des bas, des crises émotionnelles très dures, des angoisses en permanence. Enfin, tout ne s'est pas guéri tout seul et tout de suite. D'ailleurs, je suis pas guéri, je le serai jamais. Maintenant, j'ai juste appris à vivre avec. En revanche, quand vous comprenez ces maladies, vous arrivez déjà à comprendre qu'est-ce qui provoque les crises. Par exemple, des crises, j'en fais plus. J'ai plus de crises depuis des années. Et ça, c'est en essayant de m'écouter. C'est-à-dire, je me dis, OK, quand je fais ça, ça me génère de l'angoisse. Est-ce que ça se provoque tout de suite et qu'est-ce que ça impacte sur les jours d'après? Donc, OK, je comprends qu'en fait, quand je fais ça, sur le moment, ça va, mais deux jours après, je le paye. Si je dors pas, ça me fait ça. Je me lève le matin, je suis comme ça. Si je mange trop, tout simplement, le midi, ça me génère ça.
Donc,
à 16h.
Vous êtes dans l'autorégulation en permanence.
Et donc, j'ai tout étudié au fur et à mesure du temps, puis j'ai ajouté des choses. Le sport, l'hygiène de vie. Après, au bout de 3 ans, je me disais, ça va encore pas, il me manque un truc, j'ai ajouté la méditation. Et donc, je m'observe, je m'étudie et j'essaie d'optimiser mon temps pour garder de l'énergie, parce que j'ai compris que l'énergie, c'était la solution à pratiquement tous mes troubles.
Alors, Jérémy Ferrari, l'année prochaine, du 24 janvier 2025, donc au 16 et 18 mai, où vous serez au Zénith de Paris, eh bien, vous retrouverez des potes qui sont Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplain pour un nouveau spectacle baptisé La Tournée du Trio. Ça, c'est le prochain délire assuré. Mais bon, ça fonctionne d'enfer, et pourtant, tous les trois, vous n'avez pas du tout le même humour.
Non, mais c'est pour ça que ça fonctionne. C'est qu'en fait, vous avez... alors, si on doit caricaturer, parce que moi, j'aime pas trop qu'on dise que je fais que de l'humour noir, parce que c'est très... Enfin, c'est un peu réducteur, mais bon, on va dire que pour aller au plus vite, que je suis, moi, un spécialiste de l'humour noir, vous avez Arnaud de Samer, qui est un spécialiste de l'humour absurde, et vous avez Baptiste Le Caplain, qui est un spécialiste de l'humour d'observation. Donc, si vous mettez ces trois personnes ensemble, et que il se trouve que ces trois personnes s'entendent bien, c'est-à-dire que nous, on est vraiment amis dans la vie.
Ouais.
On est vraiment potes. Tout à coup, vous avez une espèce de triangle vertueux qui fait que quand vous nous mettez un sujet au milieu, moi je vais balancer de l'humour noir, Arnaud va de l'absurde et Baptiste de l'observation.
Donc vous êtes complémentaires.
Donc on est extrêmement complémentaires. Vous avez vraiment réuni les trois éléments humoristiques très forts. J'ai que vous avez des humoristes qui oscillent entre ces trois éléments, mais c'est à peu près les trois.
Mais vous aimez
éléments.
Les spectacles à thème. Est-ce que cette tournée du trio présentera un spectacle à thème?
Non, pas du tout. Non, parce que c'est pas la même chose. Moi, vous savez, les spectacles que je fais, ils sont aussi très lourds à porter. Je veux dire, émotionnellement, physiquement, ça échaude 3 heures.
Oui.
Les gens aussi se rendent pas compte forcément de quelque chose. C'est que je vais faire un spectacle sur la religion, ou je vais faire un spectacle sur la géopolitique, ou je vais faire un spectacle sur la santé. Ça veut dire que moi, je dois débattre à chaque fois que je me montre quelque part. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va me mettre en face d'un ministre, on va me mettre en face d'un politique, on va me mettre en face de mecs qui sont pas d'accord avec moi. Donc ça veut dire que quand moi je traite un sujet, je vais débattre sur ce sujet et je vais défendre ce que je raconte pendant 2 ans et demi, voire 3 ans. Vendre de pièces à Beyrouth, mon deuxième spectacle, on m'en parle encore.
Bien sûr.
Ce qui est normal, hein, ce qui est totalement normal. Mais donc, chaque mot que je dis, potentiellement, on peut me les ressortir même 12 ans après, complètement décontextualisé. Donc, quand tout d'un coup, on m'offre une tournée avec mes deux potes où on va juste faire marrer les gens comme on sait le faire et comme on le fait à la télévision depuis déjà des années. C'est une
colonie
de vacances. Mais bien sûr, c'est des vacances. Tous les trois, on fait ça depuis 15 ans. On va arriver à faire un très très bon spectacle et on va juste aller faire tous les zéniths de France et se marrer avec les gens.
Voilà, et ça sera de la gourmandise du 24 janvier 2025 au 18 mai de l'année prochaine. Allez, on fait une pause courte. On retrouve tout de suite sur Europe 1 Jérémy Ferrari. Juste avant de retrouver Jérémy Ferrari, on s'offre la version originelle en 76 de Tainted Love par Gloria Jones.
I'm
Love, c'était Gloria Jones. Et n'oubliez pas, demain à partir de 19h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Carreau pour La Voix et Livre. Nicolas qui recevra la romancière Tatiana Dronet. Nous, tout de suite, on retrouve Jérémy Ferrari.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Bon, Jérémy Ferrari, quand on est la star de l'humour qui fait les plus grandes salles, qu'on produit d'autres artistes, mais aussi des festivals, des documentaires et des films, et qu'il faut tenir toutes ces vies parallèles chronophages, et ben forcément, on a une hygiène de vie militaire. Et là, on est très 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 loin des, je l'ai appris d'ailleurs de votre spectacle, 6 bouteilles de rosé par jour qui vous consolaient il y a 10 ans de ça. Heureusement, tout ça, c'est enterré. Mais aujourd'hui, vous avez carrément une vie de sportif de haut niveau, comme si vous prépariez les JO, c'est ça ?
Alors peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, je m'entraîne énormément. Ben quand moi j'ai toujours fait des arts martiaux depuis tout petit, donc ça a été une vraie passion qui m'a d'ailleurs certainement retardé, on va dire la chute dans l'alcool, parce que j'ai commencé vraiment à boire énormément à 29-30 ans. Mais je pense que si j'avais pas eu le sport dans ma vie, je serais tombé dedans bien bien avant. Même si je buvais déjà beaucoup avant, hein, mais je buvais pas tous les jours. Donc on va dire la chute a commencé à 29-30 ans. Mais quand j'ai arrêté l'alcool, du coup le sport est devenu, j'ai doublé mes entraînements, donc moi je m'entraînais déjà une heure et demie par jour, je suis passé à 2 heures, 3 heures, 4 heures, des fois je fais des stages où je vais partir m'entraîner 7 heures par jour, 8 heures par jour, c'est devenu...
Mais déjà... quand vous faites 2-3 heures par jour, c'est tous les jours.
Oui, alors je fais entre 1h30 et 3 heures par jour, selon le temps que j'ai, parce que j'ai quand même une vie extrêmement remplie.
Voilà, vie d'artiste, de producteur.
Oui, bah, effectivement, et de toute façon, je n'ai pas de vacances. Cette année, j'ai pas eu de vacances, j'ai même pas eu de week-end cette année, j'ai pas eu de dimanche, j'ai rien eu. Donc, un jour où je ne fais rien du tout,
c'est pas facile hein, pour la vie privée.
Non, mais après, j'ai des gens autour de moi qui le comprennent et qui savent que c'est comme ça, ils savent que c'est comme ça que je me sens bien. Je veux dire, il vaut mieux avoir un mec comme moi qu'un mec. Il vaut mieux celui-là qui travaille beaucoup et qui effectivement est toujours occupé que celui qui va rentrer à 5 heures du matin complètement ivre-mort. Je pense que si certaines femmes nous écoutent, je pense qu'elles préfèrent un mec qui reste 2h30 dans une salle de sport que qui rentre à 2h30 bourré à 3h du matin.
Alors, Jérémy Ferrari, comme la plupart des sportifs de haut niveau, vous êtes devenu végétarien.
Oui, alors avec quand même quelques...
On va dire végétalien, flexitarien, je voulais dire.
Oui, alors bon, ce terme
de
flexitarien...
De temps en temps, vous faites un petit tartare.
Me fait un peu rire. Non, je ne vais pas jusqu'au tartare, quand même. La viande crue, quand même pas. Mais
je vous provoque.
Le flexitarien, non, j'aime pas trop ce terme. Non, en fait, c'est très simple. C'est simplement que j'ai arrêté de manger de la viande par conviction, aussi parce que c'est meilleur pour la santé, et parce qu'en tant que sportif, c'est recommandé. Et puis voilà, d'un point de vue vraiment écologique, souffrance animale, etc. etc. Et puis parce que j'ai les moyens de le faire. Donc, c'est-à-dire que quand on a un certain confort financier, j'estime qu'on doit essayer de rendre un peu l'appareil sur certaines choses, et je me suis dit quand même, je peux faire cet effort d'arrêter de manger de la viande. Donc, chez moi, c'est très facile parce que à Paris, en région parisienne, on trouve tout pour manger de manière très équilibrée, donc il n'y a aucun problème. En tournée, c'est pratiquement impossible. Et le végétarisme est tellement pas démocratisé qu'il y a certains endroits, en fait, j'ai pas le choix. Je vais au restaurant, des fois, on me propose que des plats avec de la viande. Et donc, ça veut dire que si je mange pas de viande, je vais manger juste un plat de haricots. Mais quand je suis chez moi, je mange aucune viande. Donc c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai réduit ma consommation de viande de 90%. C'est déjà bien.
Ah ouais, c'est énorme. Bon, Jérémy Ferrari, très bientôt, vous allez partager l'affiche d'un film avec la magnifique actrice iranienne Golshifteh Farahani. Et pour vos premiers pas au cinéma, vous avez choisi un film de genre.
Oui, alors
avec un rôle inattendu.
Il y a un grand débat autour de ce film. Est-ce qu'il est de genre ou pas de genre? Golshifteh, ça l'énerve beaucoup quand on dit que c'est un film de genre. On était en promo presse hier. Il y a un journaliste qui a dit c'est un film de genre. C'est pas un film de genre.
Bah alors c'est un film de quoi?
Alors je ne sais pas. Moi ça me va, film de genre. Non mais parce que film de genre, on a en tête un film d'horreur un peu chelou et tout. C'est pas vraiment ça. Mais effectivement, il est plutôt classé comme un film de genre. En tout cas, on n'est pas sur une comédie populaire.
Bon alors que ça, pouvez-vous nous dévoiler? Alors et de ce film, son titre déjà,
c'est
et
Rokia.
La date de sortie.
Le 1er mai, ça sort le 1er mai, ça s'appelle Rokia.
Rokia.
Ça s'appelle Rokia. Rokia, c'est l'histoire, c'est une chasse aux sorcières moderne, en fait. C'est une femme qui vit dans un quartier populaire, qui vit avec son fils, qui a la garde de son fils. Moi, je joue le mari, qui vit aussi dans la cité, qui a l'auto-école un peu du quartier. Et il y a un rapport un peu étrange entre eux, parce que on sent que lui, il est encore très amoureux d'elle, mais en même temps, il est très très dur avec elle. Et elle, en fait, elle se lance dans le maraboutisme au sein de la cité, parce que sa grand-mère est marabout. On comprend qu'elle le fait plus pour l'oseille que par vraiment une vraie croyance. Mmh. Et ça génère, si vous voulez, autour d'elle un peu... beaucoup de problèmes parce que c'est une femme arabe mais pas musulmane qui vit avec son fils seul et le mec, son mec, il vit pas avec eux et il est quand même, il a une certaine influence dans la cité. C'est le gars de l'auto-école, c'est un gars du quartier, donc sent que ça énerve un peu les mecs pour lui.
Ouais.
Et en même temps, elle fait du maraboutisme, donc ça fait peur et ça agace aussi. Donc ce qui
ça pourrait être un pitch de comédie. Or, ça n'est pas
du tout
une comédie.
Et si vous voulez, ça elle focus beaucoup de concentration de d'énergie un peu négative autour d'elle. Et tout le monde va attendre en gros qu'elle fasse un faux pas. Et il va y avoir, alors c'est pas un faux pas, en l'occurrence on va l'accuser de quelque chose. Et à partir de ce moment-là, ils vont vraiment essayer de la tuer. Et elle va se retrouver pourchassée par des gens des quartiers, de quartier en quartier, et elle va essayer de sauver sa vie.
Bon, on a envie de voir, vous nous rappelez la date de sortie?
C'est le 1er mai 2024.
Le 1er mai. Et puis, vous travaillez aussi au financement de... Alors là, cette fois-ci, ce sera votre premier film, une comédie. Donc, pour le cinéma, vous en serez réalisateur. Ça, c'est le saut de l'ange sans filet qui ouvre un nouveau chapitre dans votre vie.
En fait, le réalisateur de Rocky 1, qui s'appelle Saïd Beltibias, ce réalisateur, c'est vraiment un coup de cœur humain. Et au départ, quand il est venu me voir, c'est parce qu'il voulait écrire une comédie. Et ça a matché. On a écrit une comédie ensemble qu'on est en train de financer. Donc, on espère pouvoir tourner ça au printemps, là. Si tout se passe bien, on tourne au printemps. Si tout se passe moins bien, on tourne à la rentrée.
Printemps 2.
Là, dans quelques mois. Là. J'espère qu'on va arriver à tourner au printemps. Vous savez, le
bon,
cinéma, c'est très compliqué.
Même sous la torture, vous ne nous donnerez bien évidemment pas le pitch, Jérémy Ferrari.
Je peux pas.
Bah, bien sûr.
Mais j'aimerais vous en reparler avec plaisir dans votre émission.
J'espère, Jérémy. Bon, et puis l'an prochain, on l'a dit, vous serez pris de janvier à fin mai par la tournée du trio avec Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplain.
C'est ça.
Je voudrais savoir, non, franchement, j'ai survolé un tout petit peu tout à l'heure, juste avec une réflexion le sujet, mais l'âme sœur, il va falloir qu'elle soit hyper active comme vous pour vous suivre.
Écoutez, je suis avec quelqu'un depuis maintenant quelques années et ça se passe très très bien. Donc voilà, il faut évidemment quelqu'un qui soit compréhensif et quelqu'un qui soit à l'écoute. Et quand ça se passe bien, généralement c'est quand c'est simple. Et quand c'est simple, ça se passe bien. Et généralement quand c'est simple, alors c'est que c'est la bonne personne.
C'est la bonne personne. Bon, alors ultime question, Jérémy Ferrari. Depuis 15 ans, vous témoignez par le rire de l'état du monde. Est-ce que vous auriez pu être journaliste?
Oui, mais c'est moins bien payé.
Génial! Eh bien, on termine là-dessus. Voilà, c'est bien parti le 10 mars, à partir de 17h, pour faire en une seule séance avec la retransmission en live de son spectacle Anesthésie Générale au cinéma, bien plus que la plupart des films en 3 semaines, Jérémy Ferrari. C'était épatant de vous recevoir. Donc voilà, j'attends la sortie de votre première comédie pour poursuivre cette conversation. Merci infiniment
Merci à vous.
D'être venu. À très bientôt.
À bientôt.